Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette émission de la série Croire d'hier à demain, produite par l'Institut de pastoral des Dominicains pour Radio Ville-Marie. Au microphone, c'est Francine Robert. J'ai demandé à ma collègue Sylvie Latreille d'animer cette entrevue où je vous présenterai mon évangile préféré, c'est-à-dire l'évangile selon Saint Marc. Je vous en présenterai les grandes lignes, la réflexion qu'il propose, les particularités de sa catéchèse. Je vous dis tout de suite un mot à propos de la musique que vous entendrez au cours de l'émission, parce que je pense qu'elle vous paraîtra un peu étrange. Elle est tirée d'un CD intitulé « Musique de la Grèce antique ». Elle a été produite à partir de partitions qui ont été trouvées à l'occasion de fouilles archéologiques qui ont dû être déchiffrées. Ce que j'aime de cette musique, dans sa beauté et dans son étrangeté en même temps, c'est qu'elle évoque bien un aspect de l'Évangile de Marc que j'aimerais vous inviter à considérer, c'est-à-dire qu'il nous est un peu trop familier et il me semble qu'on gagnerait à l'aborder en acceptant de se laisser dépayser par lui. Sylvie Latreille, bonjour.
Bonjour, Francine.
Et un grand merci, Sylvie, d'avoir accepté d'animer cette entrevue où je serai votre invitée.
C'est un plaisir aussi de pouvoir faire cette entrevue avec vous. Francine, depuis que je vous connais, je sais que vous avez vraiment un coup de cœur pour l'évangéliste Marc.
C'est vrai.
Pourriez-vous nous dire pourquoi Marc, plus particulièrement, par rapport aux autres évangélistes, vraiment leur retient votre attention, vous donnez des cours sur Marc et vous évoquez souvent la figure de Marc aussi. Pourquoi choisir Marc?
C'est une préférence plutôt qu'un choix. C'est pas une décision rationnelle.
D'accord.
Ouais. Et je tiens à préciser tout de suite, ça n'enlève rien à la valeur des trois autres et j'aime beaucoup Luc aussi. Et je trouve des pages très inspirantes chez Matthieu et Jean. Marc, j'aime son système, j'aime l'ensemble de son livre. Bon, je dois avoir, Sylvie, un faible pour les histoires. Marc a beaucoup plus de récits que de discours. Et surtout, j'aime la christologie de Marc et j'aurai l'occasion de vous en parler.
Francine, je me souviens, quand j'ai fait mes études, quelques cours en Bible, Marc n'était pas nécessairement au programme. C'était beaucoup plus Matthieu, Jean à l'époque.
Oui,
alors,
en effet.
Est-ce qu'il serait un peu méconnu?
Oui. Il a été sous-utilisé, je dirais, oui, dans l'ensemble de l'histoire de l'Église. Hein. Et pendant longtemps, on a surutilisé Matthieu parce qu'on était en chrétienté, tout le monde baptisé, et donc on cherchait plutôt dans les évangiles des enseignements sur comment vivre en chrétien. Matthieu se prête bien à ça. Dans les années où vous avez fait vos études, et moi aussi, on redécouvrait beaucoup Luc avec les questions sociales, la priorité pour les pauvres, la justice. Luc est très sensible à ça. Et Marc, ben, après tout, il n'y a que des récits, presque très peu de discours. Et bon, je dis comme adulte, n'est-ce pas, les récits pour les enfants, là. Nous, on peut prendre des idées, des belles idées abstraites, hein.
Et là, on a la chance de parler de Marc. Nous sommes dans la période de l'Avent.
Oui.
Et c'est l'année B. Et c'est l'année de Marc.
Voilà. On vient de commencer depuis deux semaines, donc, avec l'Évangile de Marc, les deux premiers dimanches de l'Avent. Dimanche dernier, c'était le tout début de l'Évangile de Marc, le chapitre 1. Et on trouve aussi dans le lectionnaire le même présupposé que Marc n'offre pas beaucoup de contenu parce qu'il y a juste des récits. Oui. De sorte que quand c'est l'année B, l'année Marc, on se fait servir beaucoup de Jean. Vous allez voir dimanche prochain, ça va être Jean.
Ça va être un texte de Jean.
Ouais, et le carême aussi, dans l'année B, on va chercher dans Jean. L'été, on a droit au discours du pain de vie au complet dans le chapitre 6 de Jean. C'est un peu dommage, comme si les récits, c'était pas sérieux. Hein? Alors que la Bible, c'est l'histoire du salut, c'est une histoire sainte.
Redécouvrir Marc aujourd'hui, il me semble qu'il y a des atouts.
Oui, oui. Vous aimez Fred Pellerin, Sylvie?
J'aime beaucoup Fred Pellerin. Je l'ai fait découvrir aux États-Unis la semaine dernière.
Bon,
oui.
Alors j'espère qu'ils comprennent bien le français du Québec.
Oui, 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 tout à fait. Ouais.
Mais voyez, la vogue de quelqu'un comme Fred Pellerin, et il n'est pas le seul, montre bien qu'on est dans une culture qui redécouvre la force du récit.
Effectivement.
Et comment le récit, c'est efficace pour aller chercher un auditoire et pour mobiliser beaucoup plus que la rationalité. Il y a de la rationalité, mais il y a des affects, il y a des sympathies, il y a l'imaginaire, il y a l'émotion. Alors, le récit est redécouvert beaucoup dans notre culture.
Et le message passe bien à travers le récit.
Absolument, plein de messages qui passent. Et ça n'est pas que le récit oral, c'est toutes les études littéraires actuellement qui redécouvrent la force du récit et par transfert vers les études bibliques. Je dirais un autre atout qui est plus ecclésial cette fois, c'est que nous ne sommes plus en chrétienté. Et c'est vous qui nous parliez il y a 2 ou 3 semaines de la nécessaire évangélisation comme un défi à relever dans les églises du Québec.
Effectivement.
Alors, ça veut dire reproposer Jésus-Christ, ça. Oui. Et donc, là encore, le récit est plus efficace que le discours sur quoi faire pour aller au ciel.
Redécouvrir Jésus-Christ, c'est de redécouvrir aussi l'événement.
C'est ça. L'événement, bonne nouvelle du salut, plutôt que discours sur un Dieu abstrait. Alors, reproposer grâce au récit, puis le récit oui. reflète l'événement. Moi, je pense que c'est pour ça que Marc a produit surtout du récit, pour aller chercher cette espèce d'événement qui est la bonne nouvelle.
Comme s'il construisait un drame.
Oui, puis selon même certains canons propres à la dramaturgie gréco-romaine de l'époque.
Quand on entre dans les récits de Marc, on s'aperçoit bien que ce n'est pas de l'improvisation.
Ah non.
Et c'est un livre organisé.
Absolument. C'est pas un collage, c'est pas un scrapbook. Et vous dites, on s'en aperçoit bien. Il faut le lire pour s'en apercevoir. Se le faire servir par petites tranches minces,
c'est difficile.
On le voit pas parce que en plus le lectionnaire les dimanches nous sert ça même pas dans l'ordre là. Hein?
Oui. Et
tout l'ordre de l'Évangile est mêlé. Donc pour voir que c'est un livre bien organisé, le mieux c'est d'en lire un au complet. Et ça n'est pas que Marc, hein? C'est vrai pour
les
Matthieu,
autres aussi.
Oui, Luc et Jean. On oublie toujours que les Évangiles, Sylvie, sont écrits pour des chrétiens. Et donc, ces gens-là, là, ils les connaissent, les histoires qui sont dans les évangiles, puis ils savent comment ça finit, puis qu'il va être crucifié, puis qu'après, il va ressusciter. Alors, ils sont comme nous. Donc, si un évangéliste décide de faire un livre, ça doit être pour autre chose que juste les informer au premier degré. Hein.
Comme vous dites, ils sont déjà informés.
C'est ça. Alors, c'est plutôt, je dirais, pour construire une sorte de parcours à faire suivre au lecteur ou à l'auditeur, parce que Marc est court, hein, 16 chapitres, et il semble qu'il a été utilisé en proclamation orale pour les catéchumènes. C'est d'amener la personne du début à la fin à suivre un certain parcours, je dirais. Marc n'invente rien, hein, il utilise le matériel des traditions qui ont été transmises sur Jésus dans les communautés chrétiennes. Mais il fait quand même une œuvre originale en organisant ça, en rassemblant ces morceaux-là dans une cohérence globale, hein, qui fait que chacun des morceaux, chacun des récits est éclairé par le récit que Marc a mis juste avant ou juste après. C'est fait pour se suivre. Et ça va être vrai pour Matthieu, Luc et Jean aussi.
Le livre de Marc, on a souvent dit, c'est le premier livre. Qu'est-ce que pouvez-vous nous éclairer un
c'est
peu?
C'est le plus ancien.
Le plus ancien.
La quasi-totalité des chercheurs s'accordent là-dessus, écrit au tournant des années 70. Il est le premier à décider de ramasser en un tout, dans un cadre particulier, c'est-à-dire à partir du baptême, mission en Galilée, mission en Judée, passion, mort, résurrection. Il est le premier à faire cela. Inscrire l'ensemble dans une trame narrative. Peut-être que lui-même trouvait, comme moi, je ne sais pas, que d'avoir une vision morcelée par petits bouts des événements de la vie de Jésus, c'est pas suffisant pour approfondir sa foi. Alors, il s'adresse à des croyants comme nous, mais il propose peut-être de porter un regard différent sur Jésus en relisant la trame de sa vie à l'intérieur du cadre narratif qu'il construit pour le lecteur.
Et le résultat vise une catéchèse articulée.
C'est ça.
Quand on parle aussi de Marc, Matthieu et Luc, on parle des synoptiques.
Oui.
Comment peut-on situer Marc par rapport aux synoptiques?
Si on dit qu'il est le premier, et là-dessus encore la grande majorité des chercheurs s'entendent, on considère que Matthieu et Luc ont utilisé l'évangile de Marc une quinzaine d'années plus tard, donc disons vers 85, pour écrire eux-mêmes chacun leur propre évangile. Ils ont utilisé sa trame narrative et ils ont inséré à l'intérieur de la trame des récits le matériel traditionnel des enseignements de Jésus dont ils disposaient. Alors Matthieu, on pense au sermon sur la montagne par exemple, beaucoup de paraboles chez Luc, hein, des paraboles magnifiques.
Oui,
alors vous voyez, chacun des deux, Matthieu et Luc, ont utilisé le matériel narratif de Marc, parfois en le modifiant aussi un peu selon chacun l'image qu'ils veulent promouvoir de Jésus.
Et du fait aussi que les évangélistes s'adressent à des communautés précises.
Vous avez bien raison. Marc écrit vraisemblablement pour des chrétiens de Rome, une communauté qui n'est pas d'origine juive. Il y avait des juifs chrétiens à Rome, mais Marc, semble-t-il, écrit pour des non-juifs, pour employer le mot courant, des païens. En fait, le vrai mot serait des polythéistes devenus chrétiens.
Pourrait peut-être parler de style, de récit dans la manière de raconter,
oui,
dans l'écriture.
C'est un évangile qui se lit très bien, qui est court. Un évangile pour culture populaire. C'est un style de conte populaire. On n'est pas dans le raffinement du grec de Luc, par exemple, mais c'est très efficace, comme tous les contes populaires. Hein. Puis si vous regardez la façon dont Marc campe son héros, qui est le personnage central du livre, donc Jésus, puisqu'il y a peu de discours, qu'est-ce qu'on a? Un rythme extrêmement rapide, avec des « et aussitôt » à tout bout de champ. Hein. On lit un récit assez court. Le temps qu'on réfléchisse sur la réaction de la foule, Jésus est déjà rendu ailleurs. On a toujours l'impression de courir derrière lui pour le suivre. Il est toujours en route, sur le chemin, en barque, en train de sortir de Galilée vers les pays voisins. Et puis là, on réfléchit à ce qui vient de se passer avec la Syro-Phénicienne, mais entre-temps, il est déjà rendu dans la Décapole, qui est à l'autre bout complètement. Donc, cette rapidité, je dirais, du rythme narratif a un certain effet, je crois, voulu, un effet catéchétique, qui est de dire, si vous avez des définitions trop claires à propos de Jésus, méfiez-vous, parce que il doit vous échapper. Si vous avez l'impression d'avoir mis la main dessus, lisez bien, vous allez voir que au moment où vous croyez l'avoir saisi, il est déjà ailleurs. On a un type qui se promène tout le temps, une sorte de prédicateur itinérant, qui rencontre plein d'obstacles, qui se fait des amis, qui est soumis à des épreuves, qui prêche en public, qui est couru par les foules, qui raconte des paraboles, qui fait des actes qu'on appelle miracles, qui frappe l'imagination, qui fréquente les gens qu'il ne devrait pas fréquenter. Vous voyez, il y a tout du héros populaire qui affronte, oui, une institution puissante à Jérusalem, quelqu'un que ses amis vont laisser tomber, ses ennemis dangereux vont le détruire. Tout y est d'un conte populaire, vous voyez.
Je vous écoute et il me semble que le livre nous invite à redécouvrir l'humanité de Jésus.
Oui, Sylvie, vous avez raison. Et en même temps, Marc ne nous laisse pas oublier que pour lui et pour son lecteur, Jésus, c'est bien le Christ et le Fils de Dieu. Hein? Dès le tout premier verset, les gens vont peut-être se souvenir dimanche dernier, premier verset de l'Évangile, bonne nouvelle de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Mais, vous avez raison, Marc insiste sur l'humanité de Jésus tout au long de son évangile.
C'est comme si le choix théologique qui est là, c'est de pas arriver trop vite au fait qu'il est Fils de Dieu.
Exactement.
Et notre expérience est différente, oui, il me semble, de celle des premiers chrétiens, à savoir, nous, notre expérience va partir du Christ ressuscité.
Oui, nous, on a grandi avec l'idée que Jésus, c'est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu.
Oui.
Et c'est notre point de départ pour lire les évangiles. Et donc, c'est cela que l'on y voit. Pour les premiers chrétiens, l'évidence, c'est que Jésus, c'est un homme. Et leur problème, c'est de montrer que cet homme-là est aussi Fils de Dieu.
Oui.
Et donc, ça n'allait pas de soi. Et les premiers chrétiens ont donc tendance à insister là-dessus. Alors, c'est d'autant plus surprenant de voir Marc insister sur l'humanité de Jésus. Ça l'était dans son temps, puis je pense que ça l'est pour nous aussi. il y a là une invitation à porter attention à cette humanité de Jésus, puis à pas dire trop vite « Christ est fils de Dieu ».
Et nous savons dans l'histoire de l'Église, Francine, combien de conciles ça a pu prendre au début de l'histoire de l'Église pour en arriver justement à reconnaître à la fois que Jésus, hein, ce Jésus de Nazareth, il était à la fois homme et il était à la fois Dieu. Ça a pris quatre conciles.
Oui, et il me semble que la meilleure formule à laquelle les conciles sont arrivés, c'est « il est Dieu qui se fait homme ». Alors, je me dis que Dieu doit se faire homme pour le vrai.
D'où l'importance de l'approche de Marc.
De Marc,
dans
je
sa
pense.
Narrativité.
Oui. Et comment est-ce qu'on voit cela? Je dirais il y a deux façons dont on peut le voir. D'abord, ce fameux verset 1. Hein? Marc, donc, nous rappelle d'emblée que nous croyons que Jésus est le Christ, ce qui veut dire Messie. Christ et Messie, c'est la même chose. Et fils de Dieu. Et pourtant, personne ne va jamais l'appeler Christ, le désigner comme Christ, avant la fin de la première moitié de l'Évangile. On est rendu, Sylvie, au chapitre 8. Marc comporte 16 chapitres. Alors, ça prend toute une moitié, et il n'y a pas de récit de l'enfance dans Marc. Là. Jésus commence sa mission au verset 21.
Du chapitre 1,
oui. Ça prend donc 8 chapitres pour que quelqu'un puisse enfin dire à Jésus, « Tu es le Christ hein? ». C'est la fameuse déclaration
de Pierre,
c'est ça. 8, les versets 27 à 30. Et ça va prendre encore 8 autres chapitres, ou presque, et on se retrouve au chapitre 15, verset 39, avant qu'une personne puisse dire de Jésus qu'il est le Fils de Dieu. Là, je compte pas les voix du ciel, par exemple, puis les esprits mauvais, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Le centurion, hein, au pied de la croix. Il dit, vraiment, cet homme était Fils de Dieu. Il le dit lorsqu'il a vu Jésus mourir ainsi.
C'est comme un dévoilement qui se fait progressivement.
Oui. Mais c'est comme, surtout, si Marc voulait dire aux chrétiens, dont peut-être les disciples sont la figure, faut pas dire ces titres-là trop vite. On est mieux de bien comprendre ce qu'on met là-dedans avant de les dire. Et voyez, celui que vous et moi, dit Marc, on considère comme le Christ et le Fils de Dieu avec raison, celui-là, n'oubliez pas son humanité. Alors, il nous la présente de toutes sortes de manières. J'aimerais juste signaler des choses qu'on ne voit jamais,
oui,
qui sont là. Marc présente les émotions de Jésus. Par exemple, la guérison du lépreux. Jésus s'impatiente. C'est au chapitre 1. Matthieu va utiliser ce récit, mais va couper cette impatience. La guérison de l'homme à la main paralysée, au début du chapitre 3. Marc nous dit, et promenant sur eux un regard de colère, et navré, donc profondément déçu de leur endurcissement, Jésus dit, bon, lisez ce récit chez Matthieu, et il n'y a plus de colère, et il n'y a plus de déception.
Alors, ce n'est pas le même aspect qui est traité.
C'est ça, il ne met pas en valeur les mêmes choses. Hein. La femme hémorragique vient à Jésus et elle se guérit par elle-même, toute seule, elle n'a pas demandé la permission, puis ça marche. Ça fonctionne pas comme ça dans Matthieu non plus, vous voyez. Ça va pas avec sa manière de voir Jésus. Chez Marc, des foules qui bousculent Jésus. Les malades se jettent sur lui. Quand est-ce que vous vous êtes déjà imaginé Jésus autrement qu'avec un bon maître de vide autour de lui, hein?
Parce qu'après tout, hein? Inaccessible,
ben
non?
Oui,
l'intouchable.
En tout cas, tout le monde respecte sa bulle, là, hein?
Oui,
il n'est pas question
alors,
de...
Pas en Marc.
Pas en Marc. Les foules le bousculent, le pressent. C'est surprenant. On n'est pas du tout habitué à cette image.
Et c'est confrontant, Francine.
Confrontant juste si on veut à tout prix voir un fils de Dieu là où il y a un homme.
Voilà. Hein? Le mystère de l'incarnation, nous avons de la difficulté, nous sommes à préparer cette grande fête de Noël, et en même temps, toute la difficulté que nous pouvons avoir à entrer dans ce mystère de l'incarnation.
Oui, et vous avez bien raison de le mentionner, parce qu'à mon avis, si Marc présente Jésus avec le poids de l'humanité,
effectivement.
Quelqu'un qui a de la difficulté à faire deux guérisons, là... Je pense que Marc, c'est pas pour nous rendre Jésus sympathique, ou c'est pas parce qu'il est plus proche de l'historique. C'est une intention théologique.
C'est une intention théologique.
Oui, c'est une réflexion sur l'incarnation. C'est comme si Marc disait, faut pas noyer l'incarnation dans la foi, en la résurrection. Hein. Et c'est pourquoi je signalais tout à l'heure les deux titres au début. utilisé avec tellement de parcimonie ensuite, un à la moitié, l'autre à la fin, comme pour dire, prenez le temps de bien comprendre ce que vous dites et quel Jésus vous assumez quand vous dites ces titres-là.
Je suis toujours en compagnie de ma collègue Francine Robert, qui est bibliste à l'Institut pastoral des Dominicains. Nous sommes à parler de l'Évangile de Marc. Dans un premier temps, nous avons vu Jésus. Il y a ses disciples.
Oui.
Quel rôle jouent les disciples dans Marc?
D'abord, ils sont, sauf une fois, toujours appelés disciples. Je tiens à rappeler ça parce que les gens vont volontiers dire apôtre à la place de disciples. Et c'est une erreur qui, à mon avis, a des conséquences quand elle est faite par des agents de pastoral, des prêtres, parce que les gens qui nous écoutent ne s'identifient pas spontanément aux apôtres. Ils peuvent s'identifier aux disciples. Et c'est bien ce que Marc cherche à faire. Les disciples, c'est le groupe des gens qui suivent Jésus. Ils sont plus que 12 et les 12 font partie des disciples. Et c'est pourquoi Marc ne les appelle jamais apôtres, sauf une seule fois. Alors, tous les personnages narratifs sont un outil pour un bon conteur. Hein? Un personnage, tu l'utilises, tu le fais parler de telle manière. Et d'une certaine façon, on pourrait dire, pour un lecteur ou un auditeur, le personnage, les personnages, c'est notre porte d'entrée dans le récit. Hein? Oui. On s'identifie.
On va s'identifier.
C'est ça. Ce qu'on fait jamais, évidemment, c'est s'identifier aux adversaires, mais les adversaires aussi, dans les évangiles, sont un outil pour le narrateur. Et parfois, on pourrait se demander si on leur ressemble un petit peu. Peut-être qu'on découvrirait des choses. Bon, vous avez raison, les disciples, c'est un groupe très important dans les quatre évangiles. Hein? C'est clair qu'ils sont proposés par chacun des évangélistes. Ils sont proposés non pas comme information sur les disciples qui ont, par le passé, parcouru la Galilée avec Jésus, mais comme miroir pour les disciples du présent de l'évangéliste.
Et l'expérience de ces personnes qui est mise à contribution.
L'expérience des croyants du temps de l'évangéliste et de sa communauté chrétienne. Alors, dans ce sens-là, ils nous sont proposés à nous aussi
comme aujourd'hui.
Un miroir. Alors, c'est intéressant de voir le traitement que Marc fait
oui.
de ce...
En quoi sont-ils particuliers, en Marc?
Ils sont particuliers dans ce sens suivant. Normalement, on commence à comprendre un petit peu, et puis on chemine, et puis on comprend plus, et puis on chemine, et puis on comprend plus encore. C'est à peu près la façon dont Matthieu gère le groupe des disciples comme figure d'Église. Ils comprennent de mieux en mieux, puis ça
au
va
fur
bien.
Et à mesure que le récit se déploie.
C'est ça. Ben, chez Marc, Sylvie, c'est à peu près le contraire.
C'est compliqué, hein?
Oui, chez Marc, ils se font dire, disons, vers le début du chapitre 4, « À vous est donné le mystère du règne de Dieu. » Jésus vient de raconter la parabole du semeur. Et les disciples lui demandent, en particulier, il a raconté ça devant la foule. Les disciples viennent le voir après, et d'autres qui sont intéressés, explique-nous cette parabole. Et Jésus répond, « À vous est donné le mystère du règne de Dieu. » Alors, c'est intéressant pour le lecteur. On se dit d'abord, tiens, on peut poser des questions. Hein? C'est pas parce que le mystère nous est donné qu'on a tout compris. Et peut-être même, c'est parce qu'on pose des questions que Jésus peut dire, « Ah, c'est bien, ça veut dire que le mystère vous est donné, vous voulez comprendre plus. »
Voilà.
Ça, c'est super positif.
Exact.
Et Jésus continue en disant, « C'est pas comme ceux du dehors, ils ont des yeux, ils voient pas, ils ont des oreilles, ils entendent pas. » Mais vous, alors on se dit les chanceux, puis nous aussi, les chanceux, on n'est pas du dehors, on est du dedans, parce que on est déjà dans le groupe, on suit Jésus, on est des croyants, et donc à nous, le mystère du règne de Dieu est donné, alors on s'identifie aux disciples. Nous voici dans, avec le statut d'initié, si on veut.
Mais c'est assez paradoxal parce que, au fur et à mesure que le récit avance, on a l'impression que les disciples comprennent de moins en moins.
Voilà, c'est ça. C'est déjà au chapitre 4 qu'ils comprennent bien. Et après, ils comprennent de moins en moins. Au chapitre 8, alors c'est pas si loin après, 8, les versets 14 à 21, Jésus va leur dire à eux, ce qu'il disait à propos des gens du dehors. Vous avez des yeux, vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles,
vous n'entendez pas.
Vous n'entendez pas. Est-ce que vous comprenez pas que les pains, combien il y en avait, combien il y en est resté? Avez-vous l'esprit bouché? Bon, je vous assure, Sylvie, Jésus n'y va pas avec le dos de la cuillère dans ce texte-là. Et on se dit, mais voyons, il comprenait tantôt. Pourquoi est-ce que...
Oui. Ne trouvez-vous pas qu'il y a quelque chose de réconfortant? Moi, je me semble que ça me fait tellement du bien de voir que il me semble que j'avais compris. Et à un moment donné, dans nos étapes de vie, et j'imagine que c'est la même chose pour nos auditeurs, nos auditrices, on en perd notre latin.
Il y a des moments
où on comprend plus.
Exactement.
Et on pensait d'y avoir.
Mais si on en est conscient, c'est bon. Les disciples n'en étaient pas conscients. Vous voyez? Et c'est comme si Marc peut vouloir interpeller les chrétiens qui croient avoir tout compris.
D'accord. Hein? Intéressant, certain.
Tout de suite après ce passage-là, au chapitre 8 toujours, Marc va insérer la guérison d'un aveugle à Bethsaïda. Et c'est un de ces deux miracles dont je vous disais que parfois Jésus a de la difficulté à les faire. Là, il faut qu'il se reprenne à deux fois pour le guérir complètement.
C'est intéressant. Pouvez-vous retenir la référence?
Oui, ça c'est 8:22-26.
Parce que c'est un texte qui nous est plus inconnu.
Ah ben oui, c'est là, sûr que c'est pas au lectionnaire du dimanche, un texte comme ça.
Et aller voir le texte, aller le lire et dire, bien oui, il a fallu qu'il se reprenne à deux reprises.
Mais oui.
Alors ça montre bien aussi ce côté de l'humanité dont on parlait tout à l'heure.
Oui, et qu'il n'y a pas plus aveugle que quelqu'un qui veut pas voir, il n'y a pas plus sourd que quelqu'un qui veut pas entendre. Et juste avant, d'ailleurs, à la fin du chapitre 7, c'est la guérison d'un sourd-bègue.
Effectivement.
C'est pas par hasard.
C'est pas par hasard, là.
Et cette guérison aussi, elle est difficile. Oui. Et Jésus soupire, il lève les yeux au ciel. Bon, tout ça pour dire que Jésus peut peut-être guérir des gens, mais il peut pas nous forcer à avoir et à entendre ce qu'on ne veut pas voir et entendre. Et on en a tout de suite la trace, tout de suite après cette guérison d'aveugle, donc toujours au chapitre 8, on a cette fameuse profession de foi de Pierre dont nous parlions tout à l'heure à Césarée. Donc, chapitre 8, les versets 27 à 30. Qui dites-vous je suis? Pierre répond, tu es le Christ. Et on se dit, ça y est.
Il a compris.
Enfin. Voilà. Il peut avoir son diplôme de première année. C'est fait. Et Marc enchaîne.
Oui.
Et aussitôt, Jésus commença à leur enseigner
Passion.
Qu'il allait être livré, tout ça. Et donc, il commence à enseigner qu'il n'aura pas le dessus sur ses ennemis. Et la réaction de Pierre...
Elle nous est connue. Oui. C'est le refus.
Oui, tout à fait. C'est très négatif. Hein? Non, ça t'arrivera pas. Et Jésus va rabrouer Pierre parce que finalement, cette idée de Pierre qui est... Ben, le Messie, il n'y a rien qui peut l'arrêter.
Exactement.
Alors, quand Jésus annonce que oui, il va être stoppé, Pierre ne peut pas comprendre ni accepter. Et voilà ce que Jésus ne peut pas faire. Il ne peut pas forcer Pierre ou ses disciples ou les chrétiens actuels à comprendre quand on veut pas comprendre. C'est pas un problème intellectuel, ça. C'est un refus.
C'est un refus, puis ce refus-là demande à être déconstruit, et c'est une conversion. C'est une version autre dans la manière de voir les choses.
J'aime bien ces deux mots que vous venez d'employer. Ça demande à être déconstruit, et c'est une conversion.
Oui.
J'aime ça. Il me semble que c'est le but visé par le livre. C'est ça le parcours que Marc essaie de faire à son lecteur, pour tranquillement déconstruire des certitudes trop rapides chez les chrétiens. Non pas déconstruire la certitude que Jésus est le Fils de Dieu, mais est-ce qu'on sait ce qu'on dit quand on dit cela, ou est-ce qu'on met le bon contenu? Et vous savez, Sylvie, quand Pierre refuse la passion, Marc va dire « Jésus le rabroie », c'est pas un verbe très courant en français, on peut dire « il chicane », c'est sévère comme verbe, et pour vous donner une idée à quel point c'est sévère, c'est le même verbe que Marc utilise quand Jésus fait taire les esprits mauvais, et là c'est traduit « menacé ». Jésus le menaça, lui disant « tais-toi, sors de cet homme ». Donc, on pourrait mettre ça aussi. Jésus menace Pierre en lui disant « tais-toi, tes idées sont pas celles de Dieu ». Il le menace.
Oui.
C'est un verbe assez fort, puisque c'est le même.
Tout à fait. Et l'enjeu, il est d'ordre théologique.
Absolument, parce que les mauvais esprits, des esprits impurs, ils en ont plein la bouche. « Tu es le Fils de Dieu, le Saint de Dieu, le Fils du Très-Haut. »
Nous savons qui tu es.
Oui. Alors, peut-être bien que c'est pas parce qu'on a les bons mots de la foi qu'on sait ce qu'on dit.
Exact.
Hein? Ça peut être dit aussi bien par les esprits mauvais que Jésus fait taire. Peut-être que quand Pierre dit « tu es le Christ », Jésus le fait taire parce que dans le mot « Christ », Pierre ne met pas le bon contenu non plus. Hein. Rappeler que dans le rythme lui-même, si rapide, un effet catéchétique du rythme narratif, Jésus nous échappe tout le temps. Toute la deuxième moitié de l'Évangile, on va voir les disciples avoir de plus en plus de difficultés. Jésus va annoncer sa passion une deuxième fois au chapitre 9 et ils vont être là à se demander qui est le plus grand parmi eux. Leur préoccupation, elle est de succès, dirais.
Oui.
Eux, ils sont en train de monter vers la gloire alors que Jésus est en train de descendre vers la passion. Et plus il descend, plus eux, ils montent.
Oui.
Alors,
ils comprennent.
Moins ils comprennent, c'est ça.
C'est vraiment la mise à distance.
Oui, et quand Jésus va annoncer pour la troisième fois la passion, on a nos deux compères, là, Jacques et Jean, qui viennent le trouver. On aimerait ça être assis dans ta gloire, à ta droite puis à ta gauche. Vous voyez, ils sont complètement déconnectés. Il vient d'annoncer sa passion.
Oui.
On voudrait être assis avec toi dans ta gloire. Ils s'en vont pas du même côté, là,
non.
Vraiment pas.
C'est comme une incompréhension fondamentale là, qui se joue.
Je pense que, indépendamment de ce qui a pu se vivre dans la réalité historique des disciples de Jésus, Marc utilise vraiment ça comme une sorte de modèle d'une incompréhension qui, si on n'y prend pas garde, elle s'approfondit de plus. Elle devient un abîme dont on a de la difficulté à sortir. Et même Jésus ne peut pas les sortir de force de cette incompréhension qu'il est. Alors, vous voyez, quand Jésus va leur dire à l'agonie, « Mon âme est triste à en mourir. »
Demeurez ici, veillez.
Ben oui, restez donc, veillez un peu. « Mon âme est triste à en mourir. » C'est pas des mots d'un messie pour Pierre, ça. Ça va pas, là. Ça va pas. Alors, Marc dit finement, et il ne savait que dire. Mm-hmm. Ils savent pas quoi dire parce qu'ils savent pas quoi faire devant les choix de Jésus. Ça les dépasse. Je signale en passant, pour terminer là-dessus, qu'il y a une deuxième guérison d'aveugle chez Marc, juste avant d'arriver à Jérusalem. Et c'est l'aveugle Bartimée, vous voyez.
C'est un magnifique récit.
Très beau. Alors, fin du chapitre 10. Et ça se termine avec Bartimée le suivait sur le chemin.
Oui.
Et ensuite, il entrait à Jérusalem.
Oui.
Et suivre Jésus, c'est un verbe technique pour désigner les disciples. Hein.
Oui.
Alors, c'est comme s'il fallait une deuxième guérison d'aveugle pour que peut-être les disciples...
pourraient suivre.
C'est sûr que dans les évangiles, suivre Jésus, dans les quatre, ça désigne les disciples. D'une certaine manière, on peut dire que le traitement narratif que Marc fait du groupe disciples est très original par rapport aux trois autres.
Ouais,
oui. Très original et pédagogique, à mon avis.
Oui. suis toujours en compagnie de ma collègue Francine Robert. Nous venons de parler des disciples chez Marc. Cette fois-ci, Francine, j'aimerais ça qu'on parle des autres personnages qui servent aussi de modèle de foi. Pouvez-vous m'en nommer quelques-uns?
Oui, certainement. Bon, on pense à la femme étrangère qui implore Jésus de guérir sa fille, par exemple.
La Syrophénicienne.
La Syrophénicienne, c'est ça. Mieux connue par les gens sous le nom de Cananéenne, parce que c'est le nom que Matthieu utilise.
Que Matthieu lui donne.
Ouais. Évidemment, Jaïr et sa fille, la femme qui souffre d'hémorragie, un lépreux, deux aveugles dont j'ai déjà parlé. Il y a plein de ces gens qui ne font qu'un passage rapide dans le récit de Marc et que Marc utilise un peu comme des modèles de foi à proposer à son lecteur. Et d'ailleurs, Jésus va souligner la foi de certains de ces personnages. Oui, je vais donner les trois endroits. Il souligne la foi du paralysé et de ses porteurs. Vous savez, ceux qui passent par le toit.
Ah, qui ont l'imagination et le courage de passer par le toit.
C'est ça. Il va dire à la femme hémorragique, « Femme, ta foi t'a sauvée. » Et il va dire à Bartimée la même chose, « Va, ta foi t'a sauvée. » Et c'est intéressant parce que dans les trois cas, ces gens ont dû franchir un obstacle pour arriver à Jésus, cet obstacle étant toujours la foule.
Qui se mettait entre Jésus et
eux. Oui, et bon, involontairement dans les deux premiers cas, mais dans le troisième, la foule essaie de faire taire Bartimée.
Tout à fait, il dérange.
Il dérange, c'est ça. Et donc, Marc nous dit un peu dans ce cas-là, ce qu'est la foi, c'est cette confiance en Jésus, alors que d'autres pourraient faire obstacle, c'est la capacité de surmonter ces obstacles-là. Et c'est une foi qui est une confiance, mais sans prétention aucune, et ces gens-là vont disparaître du décor aussitôt guéris.
Et ce que je remarque aussi, Francine, pour chacun de ces modèles que vous venez d'évoquer, ça se passe dans un contexte de miracle.
Oui, la plupart des personnages dits secondaires dans l'Évangile de Marc, on les voit dans des contextes de miracle. On n'a pas, par exemple, chez Marc, un long dialogue avec Nicodème ou avec la Samaritaine, comme chez Jean. Il y a une femme avant d'entrer dans les miracles dont j'aimerais quand même signaler la présence, que Jésus louange aussi. C'est celle qui fait l'onction de Béthanie.
De Béthanie.
Qui verse du parfum sur la tête de Jésus. Et c'est Marc au chapitre 14. Et devant les disciples, que ce geste choque, c'est un geste perçu comme du gaspillage, Jésus va dire, dès cela, elle prépare mon ensevelissement. Et donc, il louange la perception de cette femme qui sait que Jésus s'en va vers la mort dans un groupe de disciples qui n'est toujours pas prêt à accepter ce projet.
Et l'audace du geste aussi.
Oui.
Qu'est cette onction que
Absolument.
Cette femme pose sur
une
Jésus?
Une sorte d'immense, guillemets, gaspillage. Mais est-ce que le choix de Jésus de passer par la mort n'apparaît pas aussi comme un immense gaspillage? Il devrait avoir la force de Dieu et réussir contre ses ennemis. Et je pense que c'est pas par hasard que ces deux choses-là viennent dans le même récit. Mais oui, vous m'ameniez donc sur les miracles. Il y en a beaucoup.
Oui.
En fait, je dis il y en a beaucoup dans Marc. Il y en a pas plus que dans Luc et Matthieu. Mais comme il y a très peu de discours, la proportion occupée par les récits de miracles, elle est beaucoup plus élevée dans Marc. Et curieusement, en plus, on a l'impression qu'il y en a beaucoup parce que ils sont tous, sauf deux, dans la première moitié. Donc, du chapitre 1 à 8, là, je pense qu'on a 12 ou 13 récits de miracles.
Alors, quand vous disiez tout à l'heure, vous nous encouragez à faire une lecture continue de l'Évangile de Marc, c'est ce qui attirerait notre attention là après les 8 premiers chapitres, de dire, regarde, ça, c'est comme une continuité de tous les miracles qu'il a fait.
Oui, et ça donne de Jésus une image de force, une image de puissance. Cet homme est capable de tout. Là, il enchaîne guérison derrière guérison. Il marche sur l'eau, il apaise la tempête, il multiplie les pains, puis ça recommence.
Voyez? C'est comme cette impression que le règne de Dieu là vient avec puissance.
Oui,
avec,
et c'est le sens que Jésus donne à ses actes de guérison. Ils sont des signes concrets du règne de Dieu. Ils sont des signes concrets du Dieu qui aime. Vous savez, on peut bien dire aux gens « Dieu vous aime, Dieu vous aime », si on n'inscrit pas quelque chose qui concrétise cela dans la vie même
ça
des
gens.
Ça peut
rester une idéologie.
C'est une belle idée, là. C'est une belle affirmation qui n'a pas de poids.
Ça ne change rien.
Intéressant de voir que souvent Marc va dire, et Jésus enseignait, par exemple, à Capharnaüm dans la maison ou à la synagogue, mais il ne nous dit pas ce que Jésus enseigne et s'enchaîne sur un miracle.
Ah,
alors, vous voyez, ce qu'il enseigne, c'est le geste.
C'est le geste.
Hein?
Le geste est enseignement.
Voilà, il est la parole de Jésus sur le règne de Dieu.
Oui.
Et donc, dire à quelqu'un qu'on l'aime, c'est agir de manière à ce qu'il reçoive quelque chose qui sauve, hein? Même si ça ne le sauve pas de toute sa vie, ça inscrit du salut. Le problème, comme vous le disiez, de l'accumulation de récits de miracles, c'est un Jésus super-héros. Ben oui, il n'y a rien à son épreuve.
Oui.
Ça induit une sorte d'image de puissance, comme vous disiez,
que
Pierre nomme Messie. Et c'est pourquoi on peut comprendre Pierre qui résiste quand Jésus va dire « Oui, oui, Messie, ok, peut-être, mais tu sais, je m'en vais vers l'échec et la mort. » Ben non, Pierre là est rempli, puis je dis Pierre parce qu'il représente tout le monde, c'est pas lui le problème, c'est les chrétiens, rempli de ces images de puissance du règne de Dieu, et puis ça va y aller, il y aura rien à son épreuve, et Jésus va triompher. Vous savez, ça va avec nos images de Dieu, hein, Sylvie, Dieu tout-puissant.
Tout à fait, puis, c'est ce qu'on nous a enseigné.
Oui, puis c'est ce qu'on dit toujours dans le credo. Hein.
Effectivement.
Crois en Dieu le Père tout-puissant. Oui. Et je rappellerai aux gens qui sont peut-être allés à la messe il y a deux dimanches, premier dimanche de l'Avent, la première lecture à laquelle on fait jamais assez attention, à mon avis.
Dans Isaïe?
Oui, c'est Isaïe.
Oui, d'accord,
hein?
oui, je pense que oui.
Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, il s'adresse à Dieu, hein, devant ta face, les montagnes seraient ébranlées. Hein? Comme le feu fait bouillir l'eau, tu ferais connaître ton nom à tes adversaires. Devant ta face, les nations trembleraient. Ce petit bout-là a été enlevé du lectionnaire. Tu ferais des prodiges inattendus. Voyez, c'est ça qu'on attend de Dieu. Il arrive, puis les montagnes fondent de terreur. Jésus arrive.
Et c'est le contraire.
Voilà.
On peut comprendre les disciples qui comprennent de moins en moins.
Exactement. Et plus Jésus s'en va vers le bas, donc, plus il s'acharne à aller vers le haut et vers la gloire et vers le succès de cet homme qui a déjà tellement montré de force, de capacité à guérir, à rassembler les foules. Et le paradoxe
de l'évangile de
cet
Marc.
Évangile, oui, qui insiste sur l'humanité de Jésus,
oui.
Je dirais qu'il est bien justement là, c'est-à-dire le problème de Jésus, du Jésus de Marc, disons, c'est de faire comprendre que oui, le règne de Dieu est fort, il est fort pour guérir, pour libérer, c'est une force qui fait du bien. Et non, le règne de Dieu n'est pas fort si c'est une force pour dominer, pour obliger à croire, pour écraser les adversaires.
Très intéressant.
C'est d'où, difficile.
C'est très difficile et là, c'est vraiment la liberté qui devient une valeur extrêmement importante.
Pour Dieu.
Pour Dieu.
C'est ça.
La liberté de l'homme.
Et c'est pourquoi... Si Jésus est si humain dans Marc, c'est pas, à mon avis, pour le rendre sympathique, c'est un choix théologique, comme vous disiez plus tôt. C'est pour montrer que la limite que Dieu impose à sa toute-puissance, c'est la limite de nos libertés. Et il ne peut pas être plus fort que ce à quoi nous sommes prêts, finalement. Si on peut pas dire oui à Dieu, il peut pas nous contraindre à dire oui. Hein. Et donc, ce Fils de Dieu, et là, on lui met toute la panoplie de toute puissance de Dieu sur les épaules, s'acharne à nous montrer que non, c'est pas, non seulement c'est pas son choix à lui, mais ce n'est pas le choix de Dieu.
Oui.
Cette panoplie de toute puissance. Et ce renoncement de Dieu, on peut le dire comme je le dis, là. Je pense qu'on le comprend pas vraiment, moi, la première. Il y a quelque chose
c'est
là.
C'est très difficile, Francine, de consentir à une si grande fragilité et à consentir à un si grand dépouillement.
Oui. Il y a là un mystère qui n'est pas seulement le mystère du Messie qui devait passer par la mort avant d'entrer dans sa gloire. Ça, c'est Luc. Ou le mystère du Seigneur qui devait verser son sang en rémission des péchés pour les hommes. Ça, c'est Matthieu.
Oui.
Ou du Fils glorifié qui rend gloire au Père, c'est Jean.
Et en toute
Sérénité, il n'y a même pas de récit d'agonie dans Jean, vous voyez.
Oui.
Mais chez Marc, c'est le Fils qui, tout Fils qu'il est, je dirais, doit assumer les limites de la condition humaine jusqu'au bout, parce que c'est ainsi seulement qu'il peut dire Dieu à nous, c'est-à-dire Dieu qui consent à limiter sa puissance pour faire de la place à notre liberté. Très fort comme
c'est
choix
très fort
théologique.
C'est la théologie de la croix.
C'est ça, c'est la théologie de la croix. Je citais, au cas où mes paroles surprendraient ou mettraient des gens mal à l'aise, je vais quand même appeler un bon vieux jésuite à ma rescousse. Le Père Lamarche qui écrivait dans un très beau commentaire sur l'évangile de Marc, « Jésus en Marc révèle un Dieu que l'amour rend vulnérable et sans défense. »
C'est magnifique.
Absolument. Et c'est ça la théologie de la croix, pour reprendre votre expression. Vous savez, historiquement, on peut dire, au niveau du Jésus historique, que la mort de Jésus, c'est la conséquence de sa vie. Hein, il a fait un certain nombre de choses, il a dit un certain nombre de choses, et finalement, c'était intolérable pour les autorités, et ils l'ont tué. Ça, c'est au niveau historique. Mais chez Marc, la croix, c'est le point de départ pour comprendre la vie de Jésus.
Voilà, ça, faut pas perdre ça de vue.
Non, hein? C'est vraiment la croix.
C'est tellement important comme clé de compréhension.
Ouais.
C'est la clé de départ.
Oui.
Que de pouvoir
c'est, dans presque
relire.
Tout le Nouveau Testament, c'est la résurrection qui est la clé.
Oui.
Évidemment, Marc croit en la résurrection, là, il n'y a aucun
c'est
doute.
Pas là, le problème,
mais il
n'y
a
là.
Pas de récit d'apparition dans l'Évangile
non.
de Marc.
Non, effectivement.
Enfin, dans la première version. Oui, Marc croit en la résurrection comme une confirmation de ce que Jésus révèle de Dieu dans sa mort. Et c'est pourquoi Marc part non pas de la résurrection, mais de la mort de Jésus.
Oui.
En posant la question au fond, mais Fils de Dieu, pourquoi est-ce qu'il est mort? Et qu'est-ce que ça dit de Dieu, cela? Et ensuite, il va construire son parcours, son évangile, pour conduire son lecteur croyant, qui croit déjà que Jésus est le Fils de Dieu, pour le conduire vers un acte de foi qui intègre vraiment ce que ça dit de Dieu, cette mort, ce refus de la puissance, ce refus que Dieu montre de sa toute-puissance. Bon, c'est comme Paul hein, qui va dire « la croix, c'est la folie de Dieu. »
C'est la folie de Dieu.
Et c'est ça qui est la sagesse aux yeux de Dieu.
Effectivement, c'est très puissant comme parole. Si
Oui. C'est très fort, ça, chez Paul. Là-dessus, Marc et Paul sont très proches. Et un autre passage que je trouve est dans la même ligne que l'Évangile de Marc, c'est le bel hymne sur Jésus dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 2. Hein, lui, de condition divine, se vide de sa condition divine et prend l'apparence et la réalité d'un homme et il se vide jusqu'à la croix. C'est ça que Marc met en récit, je dirais.
Oui. Et en ce moment, avec la période de l'Avent, c'est encore plus significatif parce que Noël, faut pas oublier que c'est un bébé naissant.
Oui, avec
dans
toute la fragilité.
Sa fragilité du bébé naissant.
C'est vrai.
Qu'on oublie trop souvent. Hein?
C'est vrai.
Et
curieusement, vous voyez, il n'y a pas de récit de la naissance de Jésus en Marc. Et pourtant, il me semble que tout cet évangile-là, est une célébration de l'incarnation que l'on fête à Noël.
Francine, vous me donnez le goût vraiment d'approfondir cet évangile de Marc.
Juste de le lire au complet d'un couvert à l'autre, hein, une fois de temps en temps.
Au moins une fois. Bon. Écoutez, je pense que vous nous donnez beaucoup le goût de poursuivre et d'aller un peu plus loin dans cette réflexion et de découvrir aussi, nous aussi, Marc, et toute la pertinence de cet évangile pour aujourd'hui. Merci, Francine.
Ben, merci beaucoup, Sylvie, d'avoir animé cette entrevue, de m'avoir donné la chance de parler d'un sujet que j'aime.
Vous aimez beaucoup.
Que j'aime beaucoup. Alors, voilà. Je vous rappelle que les informations sur les émissions sont disponibles sur le site Internet de l'Institut de Pastoral au www.ipastorale.ca. Je vous dis un grand merci d'avoir été à l'écoute de cette émission de la série Croire d'hier à demain, produite par l'Institut de Pastoral des Dominicains pour Radio Ville-Marie. Rendez-vous la semaine prochaine.